Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, je vous salue dans le nom de notre précieux et divin Sauveur Jésus-Christ. Avec vous, Pasteur Serge Alexandre, dans l'émission évangélique La Voix de celui qui crie dans le désert. La Voix de celui qui crie dans le désert, une émission hebdomadaire préparée pour vous avec des vérités bibliques et des recherches théologiques. Nous voulons vous faire découvrir la valeur, la beauté et l'excellence de l'Évangile. Nous vous prions de rester branchés avec vous, Sœur Marceline Alexandre, dans une courte prière.
Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, à toi seul, la gloire et l'honneur. Nous te remercions pour tous les privilèges que tu nous as accordés. Nous te demandons pardon pour nos péchés et nos iniquités. Voici, Seigneur, l'émission, la voix de celui qui crie dans le désert, de bénir le pasteur Serge, ainsi que tous nos auditeurs, que ton esprit puisse illuminer leur âme et qu'ils soient édifiés. Nous bénissons, glorifions, exaltons ton nom, Seigneur. Nous te prions ainsi, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen.
Chers frères et sœurs, amis et auditeurs, bonjour. Nous voici dans un tout nouveau sujet, un sujet tout neuf. Le nom, c'est les sept « Je suis ». Nous allons traiter avec vous pendant cette période, pendant cette période, les sept je suis. Le premier je suis que nous verrons, c'est se trouve dans Jean 6 verset 35. Je suis le pain de vie. Jean 6 verset 35. Je suis le pain de vie. Encore le second, je suis la lumière du monde, Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde, Jean 8, verset 12. Et puis, je suis la porte des brebis, Jean 10, verset 7 à 9. Je suis la porte des brebis, Jean 10, verset 7 à 9. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger, Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger, Jean 10, verset 11. Je suis la résurrection et la vie, Jean 11, verset 25. Je suis la résurrection et la vie, Jean 11, verset 25. Je suis le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, verset 6 à continuer. Je suis le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, verset 6. Et puis, je suis le vrai cep, Jean 15, verset 1 à continuer. Je suis le vrai cep, Jean 15, verset 1 à continuer. Pour ce jour-ci, nous allons voir « Je suis le pain de vie », Jean 6, verset 35. Et puis, « Je suis le bon berger », Jean 10, verset 11. Ce sont ces deux sujets que nous allons traiter pour vous aujourd'hui. « Je suis le pain de vie », Jean 6, verset 35. « Je suis le bon berger », Jean 10, verset 11. Pour commencer, nous allons faire une lecture pour vous dans Exode 3, versets 1 à 15. Ce passage fait comme une sorte de parallèle au sujet que nous allons traiter avec vous. Exode 3, versets 1 à 15. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur fait souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. » Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'Éternel, pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Je suis celui qui suis. » Nous pouvons bien noter dans le verset 2 du passage, quand il dit « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. » L'ange de l'Éternel, c'est la manifestation du Fils de Dieu dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle la théophanie. Avant sa naissance sur cette terre, avant sa venue sur dans le sein de la jeune femme Marie, dans l'Ancien Testament, le Fils de Dieu était toujours présent. Et c'est lui qui s'appelle l'ange de l'Éternel. Car l'ange de l'Éternel reçoit adoration. Il n'y a aucun autre ange qui puisse recevoir adoration si ce n'est que Dieu. Et notez bien qu'il a dit que, au verset 5, il dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » L'ange de l'Éternel, c'est le Fils de Dieu dans l'Ancien Testament. Non seulement il reçoit adoration, mais il dit aussi que le lieu que Moïse se tenait est un lieu saint. Oui, il est Fils de Dieu et il est Dieu. C'est pourquoi nous devons l'adorer. C'est pourquoi nous devrions l'honorer. Si l'on fait une analyse littéraire du passage, on voit que au verset 14, il dit « Je suis celui qui suis ». Le verbe « je suis », c'est le verbe de l'existence. Nous en avons déjà parlé. C'est le verbe de l'existence à la première personne de l'indicatif présent. Mais nous pouvons remarquer que « je suis » S-U-I-S, « celui qui suis », le deuxième « je suis » s'écrit S-U-I-S. Cela veut dire « c'est un éternel présent ». Il devrait être écrit « celui qui suis » S-U-I-T, au moins à la troisième personne du singulier, mais ça reste à la première personne. C'est la présence du Fils de Dieu dans le temps et dans l'espace. C'est la présence du Fils de Dieu de toute éternité. Il ne change pas. C'est un éternel présent et ce présent est continu. Il contient ni le passé, ni le futur et il ne se termine jamais. Le Fils de Dieu est toujours avec nous. Nous venons de Dieu et nous allons vers Dieu. Nous allons faire une sorte de parallèle avec ce passage, je suis celui qui suis, avec le passage, avec l'écrivain Descartes, René Descartes, qui dit cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Et le Fils de Dieu qui dit je suis celui qui suis. Dans la phrase de Descartes, nous voyons que l'existence même, c'est le verbe être. Et le fait que l'on peut penser, que l'on peut en parler, le fait que l'on peut imaginer, c'est grâce à l'existence. C'est grâce à ce verbe être, qui est le verbe de l'existence. Et le Fils de Dieu qui dit « Je suis celui qui suis ». Si l'on fait un parallèle avec ces deux versets, on voit que l'existence même dépend du verbe « être ». L'existence de tout un chacun, si l'on peut dire, si l'on peut questionner, si l'on peut parler, c'est grâce à l'existence, c'est parce que l'on existe. C'est pourquoi Descartes nous a dit « Je pense, donc je suis ». Nous allons faire maintenant une petite approche concernant le chiffre 7, le nombre 7. Le chiffre 7 a une signification symbolique bien connue de tous. Il représente la perfection. C'est pourquoi Jésus dira à Pierre qu'il doit pardonner à son frère jusqu'à 70 fois. 70 fois, 7 fois. Ce chiffre peut aussi désigner la perfection dans le mal ou le mal suprême, comme c'est le cas lorsque Jésus enseigne que si un esprit immonde sort d'un homme, il peut revenir avec sept autres esprits plus mauvais. Ou quand l'Évangile nous apprend que le Seigneur a délivré Magdalena de sept démons. Magdalene, ou plus ou moins Magdalene de sept démons. Étant donné qu'il exprime la perfection, ce chiffre apparaît très souvent en relation avec les choses de Dieu. L'auteur de l'Apocalypse est celui qui y recourt le plus fréquemment, 54 fois, pour décrire symboliquement les réalités divines. Les sept églises d'Asie, les sept esprits autour du trône de Dieu, les sept trompettes, les sept candélabres, les sept cornes et les sept yeux de l'agneau, les sept tonnerres, les sept plaies, les sept coupes déversées. Nombreux sont ceux qui font erreur en voyant dans ce chiffre l'expression d'une quantité et d'un temps réel seulement. La tradition chrétienne est restée fidèle à ce symbolisme en fixant à 7 le nombre comme la perfection, le nombre des dons aussi de l'esprit et de ses vertus. Nous allons faire, chers amis, une pause musicale et nous vous reviendrons bientôt. Nous espérons que vous resterez branchés.
Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface sauver.
Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible.
C'est avec le premier sujet, je suis le pain de vie. Nous allons lire pour vous dans Jean 6, verset 32 à 36. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous le dis, vous m'avez vu et vous ne croyez point. » Nous avons fait des recherches concernant ce sujet. Des recherches historiques sur le pain et de la valeur aussi nutritionnelle du pain, etc. Ce que nous avons remarqué, c'est qu'il dit que le pain que nous consommons actuellement résulte d'un long cheminement agricole, technologique et gastronomique. L'histoire du pain commença en 8000 ans avant Jésus-Christ. Avec le début de l'agriculture dans la région du croissant fertile, localisée à la frontière de l'Iran et l'Irak actuel. Elle se développa au cours de l'Antiquité avec l'avènement des civilisations méditerranéennes, sumériennes, égyptiennes, grecques et romaines. Elle est intimement mêlée à l'évolution des outils comme la meule. Historicité, on attribue le plus souvent l'invention du pain aux Égyptiens qui en auraient fait la découverte par hasard de la pâte à pain sans levain, de l'œuf, de la farine d'orge et de millet. Ils seraient oubliés et seraient gâtés, mais auraient tout de même été cuits, menant ainsi à la découverte du pain avec le vin que les Égyptiens enrichirent quelquefois de graisse, d'œufs, ou de miel. On a retrouvé près d'une vingtaine de sortes de pains de formes et de compositions diverses. C'est en Égypte aussi qu'on a retrouvé les plus anciennes représentations de pain, datant du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Et c'est de Sumer que date le plus ancien texte connu parlant du pain levé, le Code du Murabi. 2100 ans avant Jésus-Christ. Les Grecs développèrent le métier de boulanger et confectionnent plus de 70 variétés de pain en utilisant, pour faire lever la pâte, des levures issues de vin et conservées en petites amphores. Vers le début du 5e siècle avant Jésus-Christ, ils inventent le moulin à trémie d'Olympe qui soulage le travail des meuniers. L'industrie de grains en grec antique. Selon les époques, le pain de froment est réservé ou non aux jours de fête. Valeur nutritive du pain. Le pain est un aliment complet. Il contient tous les éléments nutritifs dont le corps a besoin. C'est un aliment très équilibré. Le pain de base contient de l'eau, des glucides, des protéines et des lipides. Le pain a une teneur en glucides qui le place au premier rang des aliments qui répondent le mieux aux besoins énergétiques de l'organisme. Le pain contient non seulement des protéines et partage à la couverture de nos besoins. Le pain contient du protéine qui participe à la couverture de nos besoins protéiques. Quelle est la place du pain dans l'Ancien Testament et dans la vie d'aujourd'hui? Le pain, appelé lechem en hébreu, est présent tout au long de la Bible, dans les premiers livres. Dans la Bible, on trouve 361 occurrences du mot, au-delà de l'aliment composé de farine et d'eau. Plat de base de l'alimentation dans de nombreuses cultures et notamment chez les Israélites. Fait d'orge pour les pauvres et de froment pour les plus aisés. Le mot lechem peut indiquer la nourriture au sens large. Dans le premier chapitre de la Genèse, lorsque Dieu indique à l'homme ce qu'il peut manger, il fait référence à cette idée « Tu travailleras et tu mangeras à la sueur de ton front ». Le pain, c'est le don de Dieu. C'est aussi le fruit d'un dur labeur obtenu par l'homme à la sueur de son front. Le pain est aussi symbole de la nourriture essentielle pour la route, comme quand Abraham donna à Agar du pain et de l'eau quand il chassait Agar avec son enfant. Le pain peut être aussi synonyme de force et de courage lorsque l'ange plaça des galettes auprès d'Élie pour lui donner des forces dans 1 roi 19 verset 6. Ou encore, il peut signifier offrande à Dieu telle que décrite au chapitre 7 de Lévitique. Le pain peut aussi manquer. C'est la farine qui fait se lamenter le peuple en Égypte, Genèse 4, verset 7, et les éboués dans le désert, Exode 16. Dans le désert, Israël criait vers Dieu. Israël criait vers Dieu pour sa nourriture, et Dieu fait répondre à Moïse qu'ils auront du pain à satiété. C'est la manne, cette nourriture inconnue qui est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Explique Moïse, Exode 16, verset 15. Cette nourriture a été donnée en abondance dans le désert, mais chacun est appelé à se servir avec mesure d'une ration quotidienne, préfigurant la multiplication des pains de l'Évangile. Le pain est ce que Dieu donne et qui répond à tous les désirs que l'homme peut porter dans son cœur. Le pain sans levain a une très grande importance. C'est dans le livre d'Exode qu'apparaît le commandement de manger des pains sans levain pendant 7 jours pour commémorer la sortie d'Égypte, une tradition perpétuelle par les Juifs avant Pessah. Le pain sans levain devient offrande à Dieu. Dans le Nouveau Testament aussi, il symbolise la purification, le renouvellement total, puisque rien d'ancien n'est mêlé à la nouvelle pâte. Et Jésus disait, ne savez-vous pas qu'un pain de levain suffit pour fermenter toute la pâte? Lance Paul aux Corinthiens, purifiez-vous donc des vieux ferments et vous serez une pâte nouvelle. Vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Parlons maintenant du partage et de la fraction du pain. Ce rite de la fraction du pain remonte à l'Ancienne Alliance. Il a pour but de faire l'unité, créer l'unité entre les convives, réalisant ainsi une communion. Pourtant, le pain partagé peut aussi avoir le goût de la trahison. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon, déclare Jésus en Jean 13, désignant Judas qui s'apprête à se servir à ses côtés avant d'aller le dénoncer. Pour les chrétiens, les épisodes de la multiplication des pains sont le signe par excellence de la reconnaissance de Jésus comme Christ, le signe que Jésus est le Messie, celui qui est attendu par le peuple d'Israël. Ainsi, lorsque Jésus nourrit plus de 5000 hommes à partir de 5 pains et de poissons, on veut se saisir de lui pour le faire roi. Il est reconnu comme le prophète annoncé, Jean 6, 14. Même si le peuple se trompe sur sa royauté, signe de reconnaissance du Christ, la fraction du pain l'est aussi après sa résurrection sur le chemin d'Emmaüs, Luc 24, verset 30. Que signifie le pain de la vie dont Jésus nous parle? Jésus est né à Bethléem, ville de David, qui étymologiquement signifie « maison du pain ». Il est emmailloné et placé dans une mangeoire. Luc 2, verset 7. Un détail qui a toute son importance. L'enfant Jésus est celui qui se définira comme le pain de la vie et qui déclara « Ceci est mon corps donné pour vous ». Luc 22, verset 19. Il dit, « Moi, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde », rapporte encore dans le livre de Jean. La nourriture est par quoi Dieu se fait connaître, de la même manière que le lait et par quoi les enfants découvrent leur mère dès leur naissance. C'est une manière de montrer que Dieu est Père, une nourriture qui n'est nécessaire que le temps du cheminin terrestre. Lorsque les Hébreux rentrent en terre promise, la manne cesse de tomber, puisque désormais ils se nourrissent du fruit de la terre et non plus du pain de la route. De même au ciel, on n'aura plus besoin de ce pain terrestre, mais Jésus restera dans notre vie spirituelle. Quand Jésus, dans le verset 35, nous dit « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Dieu, dans ce sens, parlait de tous les désirs du cœur de l'homme. Le pain au sens large, ce n'est pas seulement la nourriture, le pain dont nous mangeons, mais c'est aussi tout ce qui peut nourrir au corps, tout ce qui peut nourrir à l'homme, et dans un sens large, tout ce qui peut nourrir nos désirs, et tout ce qui vient au cœur de l'homme, tous les désirs du cœur de l'homme. Nous avons besoin de ce pain. Car ce pain n'est pas seulement pour la vie d'aujourd'hui, pour la vie terrestre, ou bien pour le corps, mais aussi pour notre âme, le pain spirituel. N'oublions pas que la parole de Dieu, c'est comme du pain pour nourrir notre esprit. N'oublions pas que la parole de Dieu, c'est lui qui... Excusez-moi, la parole de Dieu, c'est elle qui nous éclaire dans le chemin tumultueux de notre existence. C'est la parole de Dieu aussi qui nous donne la vie, car il a dit c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quand Jésus parlait de ce pain de vie, il faisait comme une sorte de métaphore. Ce n'est pas normal, ce n'est pas réellement son corps que nous devrions nous nourrir de son corps. Ce n'est pas réellement son sang que nous devrions boire, mais c'est quand ce sang est versé et quand ce corps a été meurtri, il sert pour nous comme une sorte de nourriture de vie spirituelle. Et c'est pourquoi il dit que celui qui mangera du pain ou bien autre chose aura toujours soif, mais ce corps, quand celui qui en mangera n'aura jamais soif. C'est-à-dire que tous les désirs du cœur de l'homme peuvent se réaliser avec la mort de Christ. Tous les désirs du cœur de l'homme peuvent se réaliser quand son sang a été versé. Tous les désirs du cœur de l'homme peuvent se réaliser par ce corps qui a été meurtri. N'oublions pas que après le péché, l'homme était destiné à la mort éternelle. Eh bien, ce corps peut donner la vie éternelle quand il a été meurtri, quand il a été crucifié et quand il a été enterré. Et sa résurrection nous donne une vie éternelle, une victoire éternelle. C'est ce que Christ a essayé d'expliquer quand il dit que je suis le pain de vie et celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Car nos désirs, nos aspirations, tous nos besoins peuvent se réaliser en Jésus-Christ. Et nous disons pas seulement les besoins terrestres, mais aussi les besoins éternels, les besoins spirituels. Chers amis, nous allons faire une pause musicale et nous vous reviendrons encore dans notre sujet. N'oublie pas que nous sommes en train de traiter avec vous « Je suis le pain de vie » et « Je suis le bon berger ».
Qui te rendra toujours.
nous allons continuer avec notre sujet. Nous allons entamer maintenant cette partie, la seconde partie de notre étude. Je suis le bon berger. Nous allons lire dans Jean 10, verset 10 à 14. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Pourquoi Jésus-Christ, le Fils de Dieu, utilise cette métaphore? Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Nous allons faire des commentaires, mais nous avons quelques petites recherches que nous devrions lire pour vous. Voyons tout d'abord la vie d'un berger. La vie d'un berger est une vie très humble. C'est le plus vieux métier. La profession de berger est une profession de bas étage, une profession que toutes les personnes considèrent comme la plus basse de toutes les professions. Depuis le début des temps, les bergers ont été des proverbes creuseurs de fossés. La profession sans noblesse, la profession sans importance. Les moutons sont plus intelligents que tout le monde le pense. Vous devez juste être assez intelligent pour le reconnaître. Au fil des ans, on a souvent dit généralement que des personnes autres que des moutons ou une personne avec 10 ou 20 moutons nourris de seaux, à quel point les moutons sont stupides. Cependant, si vous faites attention, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être impressionné par la façon dont ils ont survécu à la domestication depuis 10 000 ans avant Jésus-Christ. Bien que beaucoup pensent que leur instinct de flocage est un signe de mutisme, c'est en fait un mécanisme de survie communautaire. Les moutons ont appris que leur force est beaucoup plus grande et que leur confort et leur suivi sont renforcés en tant que groupe plutôt qu'en tant qu'individu. Pas une mauvaise leçon pour nous tous. Un bébé agneau entrera dans le monde et quelques minutes plus tard, il se lève et marche, trouve sa propre source de nourriture et est autonome tant qu'il reste près de son alimentation. Vous ne pouvez que vous émerveiller devant la durabilité et l'intelligence de cette créature. L'intelligence des moutons est évidente pour tous ceux qui prennent le temps de les écouter. Tendez vers le troupeau, mais prenez soin de l'individu. Cela veut dire que avoir un troupeau de moutons, cela ne suffit pas, mais il faut aussi savoir comment prendre soin de chaque mouton individuellement. Et c'est ce qui fait la force, c'est ce qui fait la force du troupeau. Et c'est aussi ce qui montre que le berger est un berger qui prend soin de tout le troupeau. Les bergers comme les moutons eux-mêmes apprennent rapidement que le cheminement vers le succès dépend de la façon dont ils doivent s'occuper du troupeau, mais de s'occuper aussi de l'individu. Fournir de l'eau propre, un fourrage abondant et un abri à un troupeau entier est essentiel au maintien de la santé du troupeau. Mais le succès d'un berger ou d'une bergère réside dans la compassion qu'ils ont pour chaque individu. Cela signifie être capable d'identifier un mouton ou un agneau malade ou blessé dans un troupeau de centaines ou de milliers de moutons. Assister à la naissance d'un agneau en cas de besoin, prendre soin d'un agneau orphelin de sa mère, fournir à la future mère une nutrition améliorée ou sevrer un agneau avec compassion font tous partie de ce travail. Plus le berger est préoccupé par les personnes qui ont besoin de soins et de santé, d'une aide alimentaire supplémentaire ou d'une attention individuelle, plus le troupeau est sain et plus l'opération est rentable. Cette leçon s'applique à plus d'un troupeau de moutons. Le travail du berger ne prend jamais fin. Parfois, le berger doit aider pour sauver la vie d'une mère, du bébé ou des deux. Les agneaux peuvent naître, peuvent être trop gros pour que la mère agnage naturellement sans stress excessif pour elle et pour le bébé. Ils peuvent être trop gros pour sortir tout seul. Ou parfois, il y a des naissances multiples où ils sont tordus ou peuvent avoir des morts-nés qui en ont besoin d'être récupérés à la main. Il y a tant d'histoires d'agnelage, il y a tant d'histoires qui sont souvent mal tournées dans une bergerie. La joie de mettre la main et le bras dans un utérus de brebis, de trouver les bons pieds, de tourner l'agneau, de ramener la tête et le cou dans la bonne direction ou de tirer un agneau, regarder la mère se lever et commencer à nettoyer son nouveau bébé est une joie sans égale. La fragilité d'un mouton, cela explique que les moutons sont des animaux très, très, très fragiles. Premièrement, les moutons, ce sont des animaux sans défense, impuissants. De tous les animaux de la Terre, on pourrait même parler d'une fourmi qui peut mordre pour se défendre, mais les moutons sont sans défense. Les moutons ne peuvent pas se défendre. Ils ne peuvent rien faire pour se protéger de l'ennemi. Les moutons sont alertés facilement. Ils sont très, très, très craintifs. N'importe quel bruit, n'importe quelle chose peut les alerter. Et à ce moment-là, ils vont prendre la fuite et ils vont laisser le troupeau et s'éparpiller de part et d'autre. La nourriture que l'on donne aux moutons doit être très propre. L'eau que l'on donne aux moutons doit être très propre. Car il y a un ennemi inégalable que les moutons, dont les moutons sont en proie à n'importe quel moment. C'est ce qu'on appelle pour les moutons une diarrhée. C'est une maladie qui peut les tuer dans moins de 24 heures. C'est pourquoi David disait dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. » Pourquoi il dit vers des eaux paisibles? Parce que si l'eau dont le mouton va se servir est bouillante, eh bien, ça va les affoler. C'est pourquoi David disait que il me dirige vers des eaux paisibles, il restaure mon âme. La brebis enceinte a toujours besoin de soins. Il y a ce qu'on appelle une brebis renversée pendant la grossesse. Une brebis renversée, cela signifie que quand le troupeau de moutons se repose, la brebis qui est enceinte, la brebis qui est en grossesse, se couche par terre. Mais au lever du troupeau, elle est trop lourde car son ventre l'empêche de se relever. Et le berger, parmi les centaines ou des milliers de moutons, doit savoir quelle est celle qui a besoin d'être relevée. Et le berger doit l'aider à se relever. Autrement, elle restera par terre et elle fera la proie des animaux sauvages. Le soin de chaque mouton est individuel, car le berger doit connaître chacun de ses moutons et il doit en prendre soin de chacun particulièrement. Leur soin physique. Premièrement, les yeux des moutons sont un peu gros. C'est pourquoi son œil l'empêche de voir au loin. Les moutons ne peuvent voir pas plus loin que la distance du berger. Les moutons ne peuvent pas voir trop loin. Et c'est pourquoi ils regardent toujours le berger. Leurs paupières sont trop longues. Et ça permet qu'ils ne peuvent voir que les mouvements du berger. Et c'est pourquoi ils le regardent toujours. Le pire ennemi des moutons, ce sont les insectes. Leurs yeux peuvent être recouverts d'insectes, ce qu'on appelle en anglais des flies. Et ces insectes l'empêchent de voir. C'est pourquoi le berger doit toujours avoir une onction d'huile qu'il va passer sur leurs paupières pour les aider à voir et pour aussi éliminer ces insectes qui l'empêchent de voir. Ces mêmes insectes peuvent se pénétrer dans ses oreilles. Et c'est pourquoi aussi le berger a toujours cette onction d'huile qu'il passe dans les oreilles des moutons afin d'éliminer ces insectes. Car ces insectes sont vraiment dangereux s'ils entrent dans son cerveau. La fourrure des moutons. La fourrure des moutons, assez souvent, on se sert de cette fourrure pour faire des manteaux, pour faire des habits très luxueux. Mais la fourrure des moutons peut les empêcher aussi d'avoir une vie naturelle, ou je dirais de les empêcher de vivre à cause des insectes qui se cachent dans ces fourrures. Et quand le mouton commence à gratter, quand le mouton commence à se déchirer la peau, si le berger ne coupe pas la fourrure, eh bien, il peut arriver même à se tuer lui-même. Les moutons sont conduits par l'exemple et le comportement. C'est pourquoi il y a toujours un mouton à la tête, après le berger, et c'est ce mouton-là qui dirige tout le troupeau. On a parlé de l'histoire des moutons de Parnuge, et quiconque ne le connaît pas, nous allons vous donner une petite édification. C'était un homme qui s'appelait Parnuge, et qui avait un bateau rempli de moutons, et il allait vendre le troupeau quelque part, et il devait traverser la mer pour aller les vendre sur l'autre bord. Un homme est venu et a acheté le mouton le plus gros du troupeau, et a pris le mouton et l'a jeté dans l'eau. Tous les autres moutons se jettent par derrière le premier mouton qui était tombé dans l'eau. Et c'est pourquoi on dit assez souvent, on a parlé des moutons de Parnuge. Cela veut dire que les moutons, comme nous disions encore, suivent l'exemple d'un ou l'exemple du berger. Les moutons sont conduits par l'exemple et le comportement. Les moutons sont totalement dépendants du berger, car ils ne peuvent rien faire par eux-mêmes, sinon que prendre leur nourriture et boire de l'eau. Le berger est constamment au travail, depuis le matin jusqu'au soir. Et même quand le berger dort, il ne dort pas complètement. Car au moins de petit bruit, il se lève et il a son bâton en main. Et nous allons voir comment le berger est équipé, comment le berger peut défendre tout le troupeau, car il a l'âme et l'intelligence pour les défendre et pour les protéger. C'est pourquoi Jésus disait, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. » Les armes du berger. Comment le berger peut protéger le troupeau de moutons contre les bêtes, contre les animaux sauvages, contre les lions, contre les loups, contre toutes les bêtes de la forêt. David disait dans le psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » La houlette du berger peut servir à ramasser et lancer très loin et avec précision une pierre ou une petite motte de terre arrachée. Tout cela sans avoir à se baisser en direction d'une bête qui s'est écartée du troupeau. Ainsi, elles reviennent apeurées vers le groupe. La partie en crochet sert à saisir aisément le petit bétail sans se baisser ni l'effrayer par son approche. La courbe du crochet et son écartement sont conçus pour permettre au berger ou d'un cabri par la patte arrière afin de lui administrer, par exemple, des soins. Le crochet permet au berger de se tenir à une plus grande distance de l'animal que s'il devait s'en saisir à la main. Cet outil est d'autant plus utile que les ovins et les caprins, même familiers, restent méfiants et ressentent la tension qui apparaît lorsque le berger forme le projet d'attraper un animal du troupeau. Les ovins sont des animaux peureux, sensibles au stress, et la fuite représente leur seule défense. Ils fuient le danger immédiatement et sans retenue dans un premier temps, puis leur instinct grégaire les pousse à se regrouper aussitôt même si la cause du danger est toujours présente. Il s'ensuit un vrai mouvement de panique dans le troupeau qu'un berger avisé évite par des gestes mesurés et une attitude calme lors de ses interventions. Le bâton facilite entre autres la marche du berger et le soulagera lors de longues stations debout en lui offrant un appui sous forme de trépied. Le crochet permet aussi au berger de ramener l'animal au-dedans du troupeau. Quand l'animal sort au-dehors du troupeau, avec le crochet, le berger peut diriger le mouton, il peut le ramener vers le troupeau. David disait, « Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. » De même que David s'est servi d'une fronde pour tuer Goliath, et cela il l'a appris en tant que berger, le berger a aussi à la main, toujours dans sa poche, une fronde. Avec la fronde, il peut lancer des pierres à n'importe quelle distance vers les animaux sauvages et les tuer d'un trait. Car le berger est très habile et il apprend jour après jour comment utiliser sa fronde pour défendre ses troupeaux, son troupeau. L'un des métiers d'un berger, c'est de jouer de la musique. C'est pourquoi David dit dans le psaume 23, « Il me dirige vers des eaux paisibles, il restaure mon âme. » Parce que les moutons sont des bêtes peureuses, des animaux peureux, on doit toujours les calmer, on doit toujours les ramener vers le troupeau et on doit toujours les aider à avoir une vie paisible. David disait encore, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige vers les eaux paisibles, il restaure mon âme. » Les moutons ont toujours besoin de soins. Et l'un des travaux du berger, c'est de jouer de la flûte. La musique de la flûte, c'est une musique douce et paisible qui ramène le mouton au calme et qui l'aide dans ses moments de frayeur. Le travail d'un berger ne se termine jamais. Et même le soir, quand il dort, il est toujours en éveil, comme nous avons dit, car il entend le moindre bruit et le moindre geste que fait l'un des animaux dans le troupeau. Le berger est déjà en éveil. Le berger doit avoir des connaissances liées au milieu montagnard, orientation en montagne. Il doit avoir aussi des notions météorologiques, connaissances liées au milieu naturel et à l'écologie des espaces pastoraux. L'activité de gardiennage dans le contexte local est liée à l'exploitation d'une estive, le contexte socio-économique du pastoralisme, le fonctionnement d'une exploitation d'élevage, la conduite des opérations de gardiennage en estive dans le respect des règles de sécurité, la connaissance sur les pratiques d'élevage, le conduite des troupeaux, la santé et l'hygiène des bêtes, technique, les opérations de gestion optimale d'une estive, utilisation et entretien des équipements pastoraux. Le berger doit avoir une connaissance énorme, toute naturelle, car c'est ce qui fait de lui un bon berger. Quand Christ disait que je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis et le mercenaire ne fait pas autant. C'est pour montrer, après tout ce que nous avons vu, comment le travail d'un berger est difficile. Nous sommes ses brebis, nous sommes les moutons dans le pâturage de Dieu, dans le pâturage de Jésus-Christ. Et tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons expliqué, montre comment nous sommes fragiles, comment nous, les chrétiens, nous qui croyons en Dieu, comment le travail que Jésus fait pour nous est un travail difficile, un travail qui ne demande pas de repos, un travail qui ne donne pas une seule minute de repos. Et Jésus veut nous l'expliquer parce qu'il en prend soin de nous. Le péché que nous avons hérité de nos parents, et c'est toute cette maladie, c'est cette infection que le berger d'Israël doit en ôter de nous. C'est cette infection que le berger d'Israël doit toujours en prendre soin. C'est pourquoi il est toujours à la porte, c'est pourquoi il est toujours là, non seulement pour nous laver, pour nous purifier, pour nous donner de la nourriture, pour nous donner la paix, pour nous donner le calme, pour nous donner la santé psychique, mais aussi la santé physique. Car la parole de Dieu, comme il est dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. En voyant que le berger naturel, le berger normal des troupeaux, n'a pas de temps pour lui, il ne dort pas, il ne fait rien pour lui-même, il n'a pas de temps pour s'occuper de ses affaires, mais seulement pour s'occuper des brebis. C'est ainsi que le berger d'Israël, le Fils de Dieu, veut en prendre soin de nous, jour et nuit. C'est ce qu'il a fait quand il était sur la terre, car il a pris soin des boiteux, il a pris soin des aveugles, il a guéri les lépreux, il a donné du pain à ceux qui en avaient faim, il a guéri la femme de perte de sang pendant 12 ans. Il a fait marcher les boiteux, les aveugles nés. Il a pris soin de tout le troupeau de Dieu. C'est pourquoi il est le bon berger. C'est pourquoi il peut aussi nous défendre. Car quand nous avons vu les armes du berger, nous pouvons comprendre comment le Christ peut aussi nous défendre. Il est comme notre berger contre les loups, contre les parasites, contre les insectes, contre les infections, contre les microbes, contre les maladies, contre les loups ravisseurs, contre les animaux sauvages, Satan et ses acolytes. Oui, le Fils de Dieu, le bon berger, peut nous conduire, peut nous diriger, peut nous aider, peut nous amener au bercail, car c'est pourquoi il est le bon berger. Et nous allons lire encore le passage dans Jean 10, versets 10 à 14. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Christ connaît, chers frères et sœurs. Christ me connaît, Christ nous connaît tous individuellement. Il peut prendre soin de nous individuellement dans le troupeau de Dieu. Et comme aussi, il peut nous protéger, comme aussi, il peut nous garder de toute embûche, de toute chute. Il est le bon berger, je suis le bon berger. C'est là que s'arrête notre sujet pour aujourd'hui. Nous vous reviendrons encore la semaine prochaine.
Chers frères et sœurs, nous allons prier avec vous après l'écoute de cette émission afin que Dieu puisse en vous bénir. Seigneur, au nom de ton Fils, nous t'en prions aujourd'hui. Lui qui nous a donné la vie, le mouvement et l'être. Lui qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour toi, notre Dieu. Merci Seigneur de nous avoir donné l'intelligence, la sagesse. Merci Seigneur de nous avoir donné ton esprit afin de pouvoir comprendre les choses éternelles, afin de pouvoir comprendre ta parole. Ouvre nos cœurs, ô Dieu. Donne-nous, Seigneur, la paix dont nous avons besoin dans ce monde de ténèbres, dans ce monde de turbulence. Merci, ô Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci d'avoir envoyé Jésus mourir pour nous sur la croix afin de nous racheter. Autrefois, nous étions ténèbres. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de lumière. Aide-nous, Seigneur, à demeurer dans la lumière. Aide-nous, Seigneur, à demeurer dans la vérité. Car tu as dit la vérité, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Merci, Seigneur, au nom de ton Fils, nous t'en prions, c'est lui qui vient et qui est au siècle des siècles. Amen. À la semaine prochaine pour notre émission. Chaque mardi, 7h pour 8h. On vous attend. Je vous attends. Merci, chers auditeurs.